Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Je suis heureuse de vous retrouver ce soir encore pour ces 2 heures de libre antenne. Je vous attends dans ce studio pour parler avec vous de toutes ces petites et grandes choses qui font la vie. Si vous en avez assez de garder un problème pour vous, si vous cherchez des réponses, si vous avez envie de partager une expérience de vie particulière, qui vous est arrivée, qu'elle soit négative ou positive, appelez-nous au 3921. Amandine et Hassan sont là, prêts à vous accueillir et à vous guider jusqu'à ce studio où je vous ferai volontiers une petite place pour vous écouter. 3921, c'est donc le numéro de téléphone. Pour réagir par SMS, vous faites le 7-39-21 en commençant bien par le mot « nuit ». Et puis une fois n'est pas coutume, j'aimerais commencer cette émission par un petit texte d'un auteur inconnu qui m'a été envoyé ce soir par Agnès, que je remercie, qui m'a envoyé ça sur ma page Facebook Sabine Marin. « Je n'ai juste pas envie de me réveiller un beau matin et de me rendre compte que la moitié de ma vie m'a déjà filé entre les doigts, que le temps de ma jeunesse est loin derrière moi et qu'il y a déjà un bon nombre de choses que je regrette de ne pas avoir eu le courage de faire. » Je refuse de me trimballer un sac de phrases non dites par peur, d'occasions ratées, de projets non aboutis, de rêves brisés et de regrets en tout genre. Et c'est pour cette raison que chaque jour je me force à me répéter que la vie est courte, fragile, incertaine, et que c'est pour cela qu'on ne peut pas se permettre d'en gâcher une seule seconde. Je refuse de perdre mon temps avec des gens qui n'en valent pas la peine. Je refuse d'avoir des doutes, d'être noyé sous les problèmes, de craindre le regard des autres, de trop penser au lendemain. Je veux me réveiller un jour en constatant que la moitié de ma vie est derrière moi, certes, mais que j'ai gardé en mémoire un flot de souvenirs colorés, de visages chaleureux, de rires mélodieux. Je veux sourire en y repensant, pouvoir me dire que je ne regrette rien et qu'il me reste encore un peu de temps pour accomplir d'autres choses, peut-être plus belles encore. La vie est un chemin, parlons-en donc ensemble ce soir au 3921. À la réalisation, nous avons Fabrice Fougeroux et la libre antenne. Ça commence maintenant.
23h, 1h. La libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Et on va commencer cette émission avec Catherine qui, à force de se décaler, a complètement perdu son rythme de sommeil. On en parle avec elle dans un instant. Et on ouvre donc cette libre antenne avec vous, Catherine. Bonsoir.
Oui, bonsoir Sabine.
Bienvenue.
Merci de m'accueillir.
Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous arrive ?
Alors, j'espère que je vais être claire, parce que justement, je suis réveillée depuis pas très longtemps. Donc,
vous n'avez pas encore les yeux en face des trous, c'est ça ?
Oui, voilà, c'est ça. En général, c'est vers 2h du matin. Vous voyez un peu à quel point c'est... voilà.
Bon, prenez le temps de me raconter ça dans l'ordre.
Alors, j'espère que je vais être claire, car je suis pas concise sur un peu nature. J'ai un petit peu tendance à... voilà, je suis pas concise de nature. Donc,
alors, si vous me permettez, je vous poserai régulièrement des questions pour être sûre qu'on se comprend bien.
Voilà, parce d'accord. que j'ai tendance un petit peu à partir dans tous les sens. Mais il faut dire aussi que c'est le sujet, enfin le sujet. La question est vaste, et c'est ce que je disais sur le message que j'ai laissé hier et à Hassan à l'instant. Tout est un petit peu comme une trame, et il est difficile de séparer les problèmes les uns des autres. C'est aussi une des raisons pour lesquelles parfois je peux avoir tendance à m'éparpiller, mais c'est pas tant de l'éparpillement que la volonté de vous donner tous les éléments. Voilà.
Dites-moi alors.
Alors voilà, depuis que j'ai déménagé, donc ça va faire 5 ans maintenant quand même. Mon rythme de sommeil se trouve, alors là pour le coup, totalement décalé, à savoir que à l'heure où je vous parle, je me couche, il est 11h midi, et je me réveille, enfin je dors très mal, mais je me lève, il est minuit, 1h.
Voyons, je sais pas si vous voyez. Vous dormez de midi à minuit?
Non. Si tel était le cas encore, je me dirais je dors bien, mais vu que je dors très 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 mal et que le sommeil est très fractionné, on peut dire que je ne dors même pas 8 heures. Hein,
c'est... Non, mais vous vous couchez à midi, c'est ça l'idée?
En ce moment, oui.
Donc vous ne travaillez pas?
Non.
D'accord, donc
c'est encore autre chose, mais voilà, oui.
Vous vous mettez au lit à midi et après c'est n'importe quoi, c'est des petits morceaux de sommeil, de réveil, de sommeil à nouveau, c'est ça?
Disons que... en général, il y a une première tranche de 4 heures,
ouais.
Et puis ensuite je me réveille. Parfois je reste 2 heures sans me lever, ce que je ne faisais pas avant, hein.
Et vous faites quoi pendant ces 2 heures? Vous regardez le plafond simplement?
Ah non, ça de ce côté-là, j'étais tas de choses. Enfin, je lis, je pense, j'écoute la radio, voilà.
D'accord.
Non. Ou je regarde le ciel puisque la fenêtre est près de moi et j'aime bien. Enfin bon, voilà. Non, je. Mais pardon. Donc parfois je me rendors, parfois pas. Souvent c'est des somnolences aussi, ce qui me fait d'ailleurs me réveiller entre somnolence avec beaucoup de palpitations.
Oui.
Oui. Et puis, pardon, dans un état physiologique un peu curieux. Enfin, j'ai le corps est comme, par exemple, mes bras ont tendance à tomber. Enfin, c'est assez curieux. Disons que quand je me suis rendormie après mon premier sommeil, une fois que je commence à somnoler, que je me rendors et que je me rendors et que enfin, que je ressomnole, je suis dans un état physiologique qui n'est vraiment pas
Ça
confortable.
me paraît
Voilà.
logique, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, mais ça me paraît
D'accord.
assez logique.
Alors, c'est arrivé, c'est ce que je disais tout à l'heure à Hassan, petit à petit. Lorsque je suis arrivée ici, j'avais encore un ami qui était plus présent, on va dire. J'avais aussi une amie, une personne âgée que je voyais à l'extérieur, qui n'est plus là à l'heure actuelle, enfin, qui est partie, enfin, qui est décédée depuis un an et demi. Et donc dans cette ville, je n'ai pas beaucoup de, enfin, je n'ai pas d'amis, j'ai quelques relations, mais ça s'arrête là. Et
Pourquoi est-ce que vous êtes venu vivre là?
ben, j'étais là avant, mais j'étais dans un autre quartier en fait. J'étais tout près, hein, j'étais à 800 mètres. Mais disons que là, je suis assez excentrée. Ce qui est agréable, c'est qu'il y a des arbres et de l'eau. Mais si vous voulez, il n'y a pas de vie au sens, il n'y a pas beaucoup de gens en bas, il n'y a pas de commerce, il n'y a rien.
Alors pourquoi vous avez déménagé dans ce quartier-là?
Eh bien, disons que je n'ai pas pu faire autrement. J'ai été obligée de partir assez brutalement de l'ancien logement dont je me trouvais depuis 7 ans. Voilà.
D'accord, donc c'est pas un choix, c'est une contrainte.
Oui, on peut dire que il fallait que je prenne un logement très vite, sinon je n'avais rien. Voilà.
D'accord.
Et puis en plus de cela, j'ai vu les arbres, j'ai vu l'eau. Moi qui aime la nature, je me suis dit je vais être bien quand même là. Même si au dernier moment, je me suis dit il y a eu un. Et puis bon, je pouvais plus faire autrement. Voilà.
Et puis malheureusement, quelquefois, quand on est contraint à faire quelque chose, même si l'endroit est bien, on peut se braquer aussi. On peut avoir des regrets, on peut ne pas arriver dans un bon état d'esprit. Si on était un peu obligé par la force des choses.
Oui, peut-être aussi, mais il est vrai que, alors au début c'était, j'arrivais à me coucher vers 2-3 heures du matin, ce qui est à peu près, ce sont mes horaires, hein, je sais pas.
En temps normal, vous vous couchiez déjà à 2-3 heures du matin.
Oui, enfin, j'ai eu des moments dans ma vie où je me suis couchée, enfin assez tôt, ce que j'appelle tôt, c'est 11 heures minuit, mais en règle générale, c'est plutôt une, deux, trois, c'était plutôt 1 heure, 2 heures, 3 heures, 1 heure, 2 heures du matin, voilà.
Question importante, Catherine, quel âge avez-vous?
J'ai 54 ans, bientôt
Ah, vous avez
55.
une voix toute jeune fille.
Oui, je sais, on me
Et ça a toujours été comme ça? Vous avez toujours été une couche tard?
Non, pas toujours quand j'étais très jeune, enfin très, oui, je voulais me coucher tôt, mais là c'est un peu compliqué, c'est que c'était pas vraiment possible là, chez moi, ou avec ma famille. J'avais une maman qui travaillait de nuit. Eux voulaient toujours se coucher
Ah,
tard. Moi, je
voilà une
voulais.
information intéressante aussi.
Oui.
Maman qui travaille de nuit, oui, dites-moi.
Et moi, je voulais me coucher tôt, et enfin tôt vers 11 h, voilà. Et il y avait ou les amis de mon frère qui étaient chez moi, et ou maman qui faisait un peu de bruit, et moi, je pouvais pas me coucher tôt.
D'accord.
Voilà.
Mais là, vous m'avez dit que vous ne travaillez pas, mais vous avez travaillé déjà dans votre vie.
Pas beaucoup, enfin, on va dire, enfin, ça c'est encore un autre, c'est pas le propos. Enfin, j'ai travaillé, mais j'étais pas déclarée, ou
Non,
alors.
parce que je me demande comment on peut gérer de se coucher à
Oui,
3
non,
heures du matin.
effectivement, non, c'est pas gérable, non, je vous
D'où
suis.
ma question, c'est pour
Non,
ça.
je vous comprends, je vous comprends, non, effectivement.
Ça me paraît très compliqué, à moins d'avoir besoin de très très peu de sommeil.
Non, je ne travaille
Oui.
pas, non.
D'accord.
Non, parce qu'effectivement, là, ce serait impossible.
Donc au début, vous me disiez que vous vous couchiez vers 2-3 heures du matin quand vous avez aménagé.
Oui, tout à fait. Et petit à petit, alors,
Pour
qu'est-ce
attendez, c'est important, pardon, mais
qui. Je vous en prie.
pour dormir jusqu'à quelle heure?
Alors, très très mal, hein, parce qu'en plus depuis, oui, je dois vous dire aussi que depuis mon âge de 20-21 ans, hein, j'ai été amenée à prendre quelques médicaments pour dormir suite à une grosse dépression. Ça a été un peu n'importe quoi, puisqu'ils m'ont donné un anxiolytique, un somnifère, bon, que j'ai diminué petit à petit, mais qui est toujours, qui sont toujours là, enfin en diminution, mais ce qui en plus ne donne pas un sommeil et un cycle naturel, et ce qui rend en plus le réveil très difficile quand on n'a pas son compte de sommeil.
Est-ce que c'est un somnifère ou un endormisseur? Vous savez, je ne veux pas citer de nom, mais il y a un comprimé qui endort très, très brutalement. Mais qui ne me fait pas dormir, d'accord, c'est somnifère.
Un somnifère, mais qui ne me fait pas plus dormir que...
Parce que vous êtes complètement habitué, j'imagine.
Pas complètement, ouais. Vous imaginez bien.
Ouais. Donc. Mais donc, du coup, quand vous vous couchiez à 3h du matin, vous vous leviez à quelle heure après?
Bien près. Écoutez, j'ai tendance à avoir des insomnies matinales, enfin, entre guillemets. Donc, je me réveille, je m'endors bien, mais je me réveille vite. Donc, de deux choses l'une, où je me réveillais, je me levais, ce que je faisais d'ailleurs, et je me levais, mais alors une fois levé à l'extérieur, c'est là que j'avais envie de dormir. Donc.
Ça a toujours été chaotique alors, de ce que j'entends.
Oui,
ça.
Tout à fait. D'accord. Sincèrement, oui.
Et donc là, vous en êtes arrivé à quoi?
Là, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est plutôt le problème, je mets entre parenthèses ce souci de mauvais sommeil et de somnifère, mais là, en fait, c'est plus. L'ordre est. Enfin, le problème est psychologiquement, je n'arrive plus à me coucher, on va dire, même vers 2-3 heures du matin.
Pourquoi? Vous êtes dans quel état d'esprit?
Une extrême angoisse chez moi. Liée au fait que je me sens dans ce quartier extrêmement isolé. Parce qu'avant, j'étais à 700 mètres, mais c'était sur le port. Donc, il y avait un côté... agréable de par être au bord de l'eau, être un peu quand même à l'extérieur de la ville, tout en étant finalement en ville. Donc si je veux voir des gens, je sors et je vais vers la droite, enfin je vais vers et je vois un petit peu de monde. Alors que là, je suis sur une avenue où il y a beaucoup d'arbres et de l'eau, mais voilà. On n'entend rien.
Ou en tout cas, vous le vivez comme tel. Je ne suis pas forcément certaine que vous soyez très isolée, mais vous le vivez comme ça, en tout cas.
Oui, voilà. Et surtout, dans cet appartement, je... Alors, c'est ajouté à cela, c'est ce que je disais. Donc, mon ami, nous sommes moins proches. Enfin, petit à petit, on n'est plus vraiment ensemble, d'ailleurs. Donc, je me suis retrouvée aussi seule par cet état de fait, j'ai aussi perdu une amie, une dame âgée, bon, qui donc est décédée il y a un an et demi. En plus de cela, je vous dirais très brièvement que ce lieu de vie ne est lourd, voilà, pour dire les choses d'une manière en fait légère.
Dans ce que j'entends dans votre histoire,
c'est pas un jeu de mots, mais voilà.
Vous avez, Catherine, trois deuils à faire.
Oui. Et c'est pas. Et pardonnez-moi. Et c'est pas. Je n'oublie le principal. La rupture. L'isolement. Enfin, parce que ma mère est partie rejoindre mon frère dans une autre ville. Au moment où j'ai aménagé dans cet appartement. Et pendant 5 ans, ça continue d'ailleurs. Je n'ai pas pu aller la voir.
Pour quelle raison?
Parce que mon frère s'y opposait. Et ça, c'est un cataclysme, c'est un séisme. C'est ce qui fait que depuis 5 ans et demi, je suis. Il n'y a pas un jour où je me réveille avec le sourire. Quoi. Ouais. Je suis dévastée, voilà.
Ben, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses en même temps. Et finalement, le sommeil, en dehors du fait que vous avez toujours été déréglée,
oui.
Ça n'est, je dirais, qu'une conséquence aussi de tout ça.
Oui. Et encore, je sais pas. Il y a encore d'autres choses, voilà. Donc, effectivement, ça fait beaucoup, beaucoup de choses, oui.
C'est, dans ce que j'entends de votre histoire, il y a quatre deuils à faire, du coup. Vraiment. Il y a le deuil de l'ancien appartement, parce que je pense que, évidemment, vous avez mal vécu ça.
Oui.
Il y a le deuil de votre relation amoureuse.
Oui.
Il y a le deuil de cette dame âgée qui est décédée.
Oui.
Et il y a le deuil de la relation avec maman qui a changé, qui a été mise à distance.
Oui.
Ça fait, vous savez, le deuil, c'est toute situation, il y a un avant et un après. On ne parle pas que de mort, hein, dans un deuil.
J'entends
c'est toute
bien.
Situation, il faut accepter... qui est un avant, fermer la page et ouvrir l'après. Et j'ai l'impression que chez vous, tous ces chapitres-là sont encore ouverts et qui font mal.
C'est très juste.
Et ouais. Est-ce que vous avez été suivie, est-ce que vous êtes fait aider pour tout ça?
Oh, non, non, enfin, c'est-à-dire que j'ai, de par le passé, j'ai fait tant et tant. Vraiment, hein, vraiment, je crois que... et en plus, je ne suis pas bien tombée. Donc, le découragement, vraiment, s'est installé. Et ce que j'ai essayé de faire, et ce que j'essaie toujours de faire, c'est toujours à travers des lectures, à travers quelque chose... Enfin, avec moi et moi. Je sais que c'est pas... Il n'y a pas d'altérité, c'est loin d'être l'idéal. Mais en plus de cela, se sont adjoints ces deux dernières années des soucis de santé physiologiques qui sont pas gravissimes, enfin quand même une pancréatite, etc. Donc avec un ablation de la vésicule, donc avec un qui m'ont pris beaucoup d'énergie. Et alors ça s'est en plus surajouté dans cet appartement. Des tas de malaise paroxystique, enfin vraiment bénin, j'entends, mais donc en plus un état de santé physiologique qui s'est
Oui, c'est normal, votre corps est épuisé. Vous êtes moralement épuisé et physiquement fatigué.
Complètement.
Et en plus, je crains que vous soyez en train de focaliser, de cristalliser tout sur cet appartement-là.
Non, sincèrement, non, je ne...
Enfin, comme si tout ce que vous me racontez depuis tout à l'heure, vous le liez à l'appartement. C'est depuis que je suis dans cet appartement, il m'arrive ça. Comme si, en fait, c'est un mauvais concours de circonstances qui fait que tout est arrivé en même temps sur quelques mois.
Ah non, là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, non, je comprends que vous puissiez percevoir cela. C'est parce que bon, on doit dire beaucoup de choses dans un peu de temps assez court, mais donc ça peut donner cette impression. Mais je ne relie pas tout à l'appartement. Non, non. L'appartement est. Je juxtapose bien tous les. Il y a mon ami. Il y a ma famille, surtout en premier lieu. Il y a cet état de santé et cet épuisement psychologique et physiologique. Ce séisme, ce cataclysme qu'est le suicide avec ma famille, vraiment.
Oui.
Ça, je dirais ça en premier. Et pour parachever le tout, des choses que je n'évoquerai pas à l'antenne parce que c'est trop... et pourtant, c'est trop...
Trop douloureux ?
Non, douloureux certainement, mais... Ça pourrait ne pas être compris et voilà, on est dans des domaines qui ne sont pas forcément rationnels et je ne voudrais pas qu'on mélange tout et D'accord. qu'on puisse imaginer en plus que je dirais juste que pour faire court cet appartement et il est lourd. Enfin, D'accord. je suis quelqu'un d'une personne extrêmement réceptive. Et là, on est plus
je crois comprendre
voilà.
ce que donc
on
parle.
Est
Catherine,
plus du tout dans l'aspect psychologique.
Pardonnez-moi, je suis obligée de faire une toute petite pause.
Je vous en prie,
ne bougez pas, s'il vous plaît. Voilà, on continue cette conversation dans un instant.
Merci.
Merci à vous.
Merci.
Catherine, vous êtes là?
Oui, je suis là.
J'entends un peu j'entends ce que vous ne m'avez pas dit en fait tout à l'heure.
Oui, parce que c'est très.
C'est un autre sujet. C'est un autre sujet,
mais qui justement de la poule ou de l'œuf. Je sais que là je suis pas très claire. C'est un peu mystérieux ce que je dis. Mais cela étant,
il y a des endroits dans lesquels pour faire simple, il y a des endroits dans lesquels on se sent bien et d'autres dans lesquels on se sent mal sans forcément comprendre rationnellement pourquoi.
Ah oui, non, mais ça atteint des summums et c'est aussi la raison pour laquelle je ne me couche pas tôt. Voilà.
Oui, je comprends. Je connais bien ce sujet-là aussi.
Et vraiment, ce n'est pas de mon imagination, moi. Voilà. Je fais bien la part des choses et j'ai eu tout le temps de.
Alors ça, juste pour clôturer ce chapitre-là, vous pouvez faire venir un géobiologue chez vous aussi.
J'ai déjà eu des opinions au téléphone. On m'a dit de partir très vite. Voilà, on était très inquiètes pour moi.
Mais on peut pas toujours le faire. Donc après, il y a d'autres solutions. Mais on peut pas partir sur plein de choses en même temps.
Je sais. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, voilà, n'hésitez pas à me.
Mais c'est intéressant d'avoir une compréhension un peu globale de votre histoire.
Mais en tout cas,
pour moi, pour que je puisse vous aider.
C'est pour ça que j'essaye de faire au mieux. Enfin, voilà.
Vous me disiez, par contre, ce qui m'embête un peu, vous me disiez que vous êtes fait aider, que vous êtes mal tombé, c'est-à-dire.
Mais oui, mais dès le départ, dès mon âge de 22-23 ans, enfin, je veux dire, dès quand il y a eu 21-22 ans, oui, quand cette dépression a eu lieu, que j'ai ressenti tout d'un coup une fatigue que je ne connaissais pas. Oui, mais franchement, c'est pas pour jeter le discrédit sur qui que ce soit, mais vraiment, avec tout le recul que j'ai, bien évidemment, oui, c'est une catastrophe. Tant au niveau de la prise en charge, enfin voilà. Donc après, je m'en suis sortie en allant à Paris. Je m'en suis un petit peu sortie, pas complètement, puisque j'ai pas récupéré toute mon énergie, mais en fait, je m'en suis sortie par l'affectif, en rencontrant d'autres gens, en étant, puisque je fonctionne beaucoup à l'émotionnel. Et oui, enfin, ce sont surtout les, oui, c'est l'affectif sur moi, enfin, pour moi qui souvent, voilà, trop, je sais, mais donc je me suis sortie en rencontrant d'autres gens, en allant à Paris, en restant 3 mois à Paris, 3 mois à Caen, et petit à petit, j'ai remonté comme ça quelques marches, et j'ai, voilà, et après, il y a eu une période où j'ai fait de la peinture, à l'âge de 33 ans, j'ai entamé une thérapie en kinésiologie, mais là encore, qui, je trouve, à mes yeux, n'a pas été bien menée, puisque elle a fait ressortir beaucoup de choses, mais sans pour autant les colmater, et je me suis retrouvée avec tout qui remontait, mais sans pouvoir toute seule, quoi, voilà.
C'est pas bon du tout, ça.
Et ce qui a donné lieu aussi à d'autres soucis à l'époque où je vivais encore avec maman, voilà, enfin bon, voilà. Mais, et puis, d'autres... Oui.
Donc là, depuis qu'il y a tous ces soucis dont vous m'avez parlé,
oui,
vous n'avez pas réentamé une thérapie quelle qu'elle soit?
Non, parce qu'à l'heure à laquelle je vous parle, on va dire que l'énergie, est, même si ça ne s'entend pas, l'énergie est très faible. Le moral est vraiment... je suis vraiment...
Et j'entends que vous êtes épuisée.
Très, très en souffrance. Dans un état de tristesse assez abyssal.
Alors, est-ce que vous voulez bien que je vous tende la main?
Ah, mais bien évidemment, c'est un moment auquel j'appelle.
Essayer de reprendre les choses dans l'ordre.
Oui, j'espère que j'étais à peu près claire.
Vous l'avez été. Arrêtez de vous excuser de vivre, s'il vous plaît, Catherine. Hein? Vous avez le droit de prendre votre place. Vous avez... Souvent, à la fin de votre phrase, vous dites pardon, excusez-moi. Comme si vous n'osiez pas dire. Comme si vous étiez obligé de vous excuser d'aller mal. Vous avez le droit?
Oui.
Vous avez ce droit-là? Et oui, laissez-vous le droit d'aller mal et le temps d'aller mieux, c'est important.
Merci.
Donc la première chose, ce que je vous ai dit, il y a plusieurs deuils à faire. Il y a cette situation, ce déménagement pour un endroit qui vous a été forcé, vous a été contraint d'y aller, et en plus, manque de chance, il n'est pas extrêmement accueillant, cet endroit-là. Bon, et ensuite, cette rupture amoureuse qui tombe au même moment ou à peu près?
C'est pas vraiment une rupture, c'est une déliquescence, enfin une...
Oui, enfin, c'est en tout enfin, cas, voilà, on va résumer,
oui,
on va dire,
voilà,
ça se passe pas bien,
oui,
quoi,
oui.
C'est pas...
Oui, voilà.
C'est pas du bonheur. Il y a ce conflit familial qui vous pèse.
Ah, ça, c'est la principale... Oui, oui, oui.
Il y a ce sommeil qui est complètement détraqué, qui vous épuise physiquement.
Oui.
Ça fait beaucoup. Je pense que vraiment, il est important de faire une thérapie. Et là, ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé, mais je vous conseillerais vraiment l'hypnose pour ça. Parce que je vous sens pas du tout repartir faire une thérapie pour des mois ou des années. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de ça.
Non, pas du tout. Enfin, des mois, des années. J'ai jamais fait quelque chose avec qui durait des mois, des années. Mais de toute façon, il faudrait déjà que je... Puis en plus, financièrement, c'est voilà.
J'entends bien ça. C'est aussi pour ça que je vous parle de ça.
Voilà.
Et aussi pour ça que je vous parle de ça, c'est qu'il vous faut quelque chose de ce que j'entends déjà d'un peu différent et d'assez rapide. Et avec des séances d'hypnose thérapeutique, vous pourriez régler ces deuils-là assez rapidement. Et vous pourriez aussi travailler sur l'énergie. Il y a plein de choses que vous pourriez faire. Mais ça, c'est un autre domaine. Si ça vous intéresse, on peut en reparler. J'aimerais maintenant qu'on se concentre un peu sur le sommeil.
Oui.
Est-ce qu'on vous a déjà appris, parce qu'on a plusieurs SMS qui viennent d'arriver de gens qui sont dans la même situation que vous et qui me disent, si vous avez une solution, ça m'intéresse. J'ai pas de remède miracle, mais j'ai quand même des conseils intéressants à vous donner sur ce terrain-là.
Oui.
Est-ce que vous connaissez vos rythmes? Est-ce qu'on vous a déjà appris que nous avons des rythmes de sommeil?
Mais écoutez, je vous ai écouté un soir et j'ai tout noté.
Alors, est-ce que vous vous en êtes servi? Alors, je vais peut-être le répéter rapidement pour les auditeurs qui n'étaient pas à l'antenne ce soir-là. Nous fonctionnons tous sur des rythmes de 90 minutes, d'une heure et demie.
Voilà, j'avais noté, oui.
Jour et nuit. C'est-à-dire que si vous faites attention dans une journée, vous vous rendez compte qu'il y a des moments où vous êtes là, vous vous étirez un petit peu, ou alors la nuque fait un petit peu mal, les paupières sont un petit peu lourdes, et puis ça redémarre. C'est là où des fois on se lève, on marche un petit peu, on va prendre l'air, on ouvre la fenêtre, des petites choses comme ça. Ça, c'est nos rythmes physiologiques naturels. On a les mêmes la nuit. Ça veut dire qu'il faut apprendre à les repérer, ces rythmes-là. Donc ce que j'avais conseillé de faire à l'époque à la personne qui m'avait appelé, c'est de prendre un petit bloc Et pendant une semaine ou deux, à chaque fois que vous avez un petit coup de barre, toute la journée, vous notez l'heure. À peu près.
Donc, j'avais tout noté, oui.
D'accord. Donc vous notez l'heure à 2-3 minutes près, juste ça. Et puis forcément, vous allez vous rendre compte au bout d'un moment, quand vous commencez à regarder toutes ces heures notées, que comme par hasard, toutes les heures et demie, il y a quelque chose qui revient. Si par exemple, plusieurs fois, vous vous rendez compte que vers 21h30, il y a un petit coup de pompe. Bah, logiquement, vous allez vous rendre compte qu'à 23h, il y en a un autre. Ça fait une heure et demie. Et petit à petit, ça va devenir de plus en plus évident que toutes les heures et demie, il y a quelque chose qui se dessine. C'est votre cycle à vous. Quand vous connaissez votre cycle, vous commencez à vous reprogrammer pour aller vous coucher au moment où votre cycle commence. Mais si vous avez bien écouté ce que j'ai dit à l'époque, combien de temps on a pour se coucher au moment de son cycle? Très peu.
C'est pas une interrogation. 7 minutes.
Oui, bravo, c'est ça.
7 minutes.
C'est ça. Ça veut dire que vraiment, il faut se connaître, il faut s'écouter et il faut connaître son rythme à la minute près. Quand je sais que mon rythme, par exemple, mon cycle commence à 23h, à moins 5, je suis déjà la tête sur l'oreiller. C'est l'image du train que j'avais.
Oui, je me souviens très bien. On a 1h30 après pour...
Ah non, on a 7 minutes pour monter dans le train, on n'a pas 1h30.
Oui, mais l'autre cycle recommence.
Voilà, le cycle du... Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que dans ce cycle-là, on a différentes phases de sommeil. Mm-hmm. On a la première phase qui est assez, ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, qui est assez léger. Mm-hmm. Et on a assez peu de sommeil profond et réparateur au fil des cycles. C'est un peu compliqué de vous expliquer ça comme ça à la radio. Mm-hmm. Mais chaque heure et demie n'a pas la même valeur au niveau de la qualité du sommeil, si vous voulez.
D'accord.
Les trois premiers cycles sont extrêmement importants. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il est vraiment très important de dormir au moins les trois cycles complets. Mm-hmm. Après, c'est moins important. Mm-hmm. Donc, quand vous connaissez votre cycle de sommeil, vous vous couchez à 7 minutes à peu près avant, vous vous endormez au moment où ça commence, mais qu'est-ce que ça veut dire aussi? Que vous programmez un réveil. Parce que ce qui se passe avec vous, c'est que vous ne programmez pas de réveil et que vous restez beaucoup trop longtemps au lit, de ce que j'entends.
Oui, tout à fait, mais c'est... Alors, par contre, pardon, là, c'est assez récent, ça fait... je reste au lit de... Ça dure depuis 2 mois, le fait que j'attende vraiment pour m'endormir, parce que je suis trop fatiguée si je me lève aussitôt. Et puis aussi, depuis 2 mois, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, mais j'avais plus trop envie de sortir de mon lit. Quoi. Voilà.
Ça, c'est un peu les symptômes de la dépression. Le sommeil est une fuite dans ces cas-là. On reste en boule sous sa couette et on n'a plus envie.
Je sais bien, mais bon, je finis toujours par me lever puisque je ne peux pas rester enfermée, j'ai besoin de sortir. Donc, voilà.
Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faudrait peut-être vous rééduquer à dormir moins, à vous obliger à dormir moins, à rester moins dans le lit. Parce qu'en fait, vous êtes paradoxalement, vous êtes extrêmement fatigué en restant au lit tout le temps, en vous recouchant, en vous réveillant, en vous rendormant. Quand vous aurez réintégré vos cycles, puisqu'en plus vous aviez noté ce que j'avais expliqué
oui,
la dernière fois,
oui.
Quand vous avez réintégré vos cycles et que vous les connaissez, rééduquez-vous. C'est vraiment la rééducation, ça paraît bête, mais c'est la rééducation. Couchez-vous par exemple, alors pour vous 23h c'est peut-être un peu tôt, on va dire minuit et demi.
Oui.
Minuit et demi calculé, minuit et demi ça fait... Ah, allô Catherine? Allô?
Oui, je sais pas, il y a du brouillage.
Oui, ça y est, c'est parti.
Vous m'entendez?
Oui, très bien. Si vous vous couchez à minuit et demi... Ça veut dire quoi? Que le premier cycle se termine à 2h.
Oui.
Ensuite à 3h30.
Oui.
Ensuite à 5h.
Oui.
Ensuite à 6h30.
Oui.
Ensuite à 8h.
Oui.
Donc au plus tard, vous vous levez à 8h. Vous vous obligez à vous lever à 8h, vraiment.
Ah oui.
Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, on connaît tout ça. Par exemple, si vous ne mettez pas votre réveil à 8h, vous le mettez, mettons, à 7h30. Et puis vous vous réveillez... À la fin du... comment vous expliquez ça? J'ai tellement l'habitude de le faire avec des schémas que le faire à l'oral comme ça, c'est pas évident.
Non, mais je...
Vous comprenez ce que je veux dire?
De la même
manière, on a 7 minutes pour monter dans le train quand il arrive, on en a 7 minutes pour en descendre.
J'ai compris.
Si vous ne vous réveillez pas à la fin d'un cycle, si vous vous obligez à vous réveiller avant ou après, vous n'êtes pas bien.
Mmh.
On est en décalage. C'est comme quelquefois on ouvre les yeux une demi-heure avant le réveil, on est plutôt bien, puis on se dit bon allez, il reste un peu de temps, je me rendors. Et quand le réveil sonne, on est complètement cuit pour la journée, c'est fichu. Donc c'est vraiment une éducation, une rééducation de sommeil.
J'entends bien ce que vous me dites. La seule chose, c'est que on dirait que j'essaie de tout faire pour diminuer l'heure à laquelle je vais me coucher, enfin pour avancer. Pour avancer, oui. Et je ne sais pas pourquoi. Inconsciemment, il y a toujours quelque chose sans que je me rende compte qu'il faut que je fasse ou qu'il faut que je et je me retrouve depuis 2 mois toujours à être couché à midi, voilà.
Parce que de ce que j'ai compris, il y a cette phase de dépression et vous avez des angoisses quand vous vous couchez. Et donc peut-être pour pas affronter ces angoisses-là, vous reculez.
Certainement, certainement, oui. Ou à ça, des angoisses au niveau du coucher, oui, puisque même lorsque je suis arrivée ici, j'avais mon amie, cette dame âgée, je me couchais déjà la troisième année à 8 heures. Donc, elle me disait, Catherine, allez-vous coucher. Et j'attendais de l'avoir au téléphone, oui. Donc, effectivement, oui.
Je pense aussi à quelque chose pour vous. Est-ce que vous avez entendu parler de ce qu'on appelle la cohérence cardiaque ?
Ça me dit quelque chose, oui, ce sont des respirations.
Exactement, vous pourriez déjà commencer par faire ce genre d'exercice-là, à faire de la méditation le soir avant de vous coucher.
La méditation chez moi ?
Oui, pourquoi ?
Oui.
C'est à l'intérieur de vous-même que ça se passe, on s'en fiche de l'endroit. Vous pouvez les méditer où vous voulez, même à l'extérieur si vous préférez. C'est curieux, pourquoi vous me dites c'est chez moi ? Qu'est-ce qui vous ennuie ? Vous n'êtes pas bien chez vous ?
Non.
Ouais.
Ça, dès lors que je suis sortie du lit, je prends ma douche et je m'en vais. Même si 3 heures du matin et je reviens après, et voilà. Je n'y reste pas, je n'y vis quasiment pas.
Je vais vous poser une question idiote, mais il n'y a aucun moyen que vous quittiez cet endroit.
Ah ben, c'est tout l'enjeu. C'est mon but. Enfin, c'est un de mes buts. Voilà. Simplement, bon, en ce moment-là, j'attends en plus un examen qui va se faire sous anesthésie générale. Donc ça bloque un peu le et d'autre part il faut beaucoup d'énergie pour déménager, j'en sais quelque chose.
Et oui, mais là je crois que vous seriez motivée hein, s'il y avait une possibilité. Là dans un cas comme ça l'énergie elle peut revenir. Quand c'est pour quitter un endroit dans lequel on est mal.
Ben ça demande si avec la clé à mettre dans la boîte aux lettres il y a longtemps que je serais partie, mais au niveau des démarches je ne suis tellement pas bien ici que. Parfois, je me suis vu sortir d'ici, mes jambes me tenaient à peine, j'avais la tête qui tournait, le temps de retourner à 700 mètres dans le centre-ville. J'arrivais là-bas, il me fallait un quart d'heure, 1 minute pour me retrouver. Voilà.
Oui, vous êtes complètement épuisée. Vous êtes suivie de toute façon par un médecin, là, j'entends, puisqu'il y a une opération. Vous avez quand même fait des prises de sang, vous savez vous en êtes de ce côté-là ?
Oui, non, là ça va, non. physiologiquement parlant, mes prises de sang sont normales.
Sont bonnes, d'accord.
Non, c'est d'ordre... Alors, en plus de ça, oui, j'ai oublié autre chose, c'est que... Alors, c'est encore un autre souci, mais ça, je le rajoute très vite, c'est que, malheureusement, je suis... Enfin, en 5 ans, en plus 6 ans, je peux plus me servir de portable. Enfin, j'ai une très forte sensibilité à toutes les ondes qui se manifestent sans fil. Et ils ont installé en plus chez moi des compteurs Linky, compteurs Gaspard, compteurs AO, télécommunicants, etc. etc. Et je ne sais pas si ça arrange les choses. voilà.
Vous pensez que vous êtes sensible à ces ondes-là ?
Ah ben ça, c'est pas que je pense, c'est que j'en suis certaine, vu que je peux plus me servir de portable depuis maintenant 6 ans. Et que depuis 2 ans, je supporte même plus ceux des autres. Donc, voilà. Le dernier smartphone que j'ai essayé d'acheter, c'est obligé de le donner, voilà. Là, je vous appelle de la fixe, hein, voilà.
Vous n'êtes pas la seule dans ces cas-là. Il y a de plus en plus de gens qui mentionnent ce genre de sensibilité, d'ultra-sensibilité, en fait.
Ah oui, non, mais c'est affreux, parce que... En plus, moi, j'en ai eu un portable, donc... en plus, un autre deuil, mais... voilà, je suis en plus... pardonnez-moi. Je me retrouve coupée. Je peux pas laisser de message sur... Comme j'ai pas d'ordinateur ici, j'attends de déménager pour avoir un ordinateur filaire, parce que ce qui est à fil ne me pose pas de soucis. Le portable, donc, je peux plus envoyer des SMS, je peux plus... Enfin, voilà.
Ouais, ça fait beaucoup. Catherine, le temps passe vite avec vous, je vais être obligée de faire une deuxième pause.
Je vous en prie.
Vous ne bougez pas ?
Je ne bouge pas.
À tout de suite, merci.
Merci.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Catherine, vous êtes là ?
Oui.
Je suis en train de lire un SMS de Lilou qui a écouté l'émission où je parlais de sommeil la dernière fois et qui me dit « Grâce à moi, elle a retrouvé un rythme de sommeil et qu'elle en est ravie ». Merci de votre message, Lilou. Mais vous savez, du coup, je suis en train de me dire que vous avez entendu cette émission et que ce n'est pas vraiment le sommeil qui vous amène ce soir, j'ai l'impression. Vous le saviez, ça, ce que je vous ai dit sur les rythmes ?
Oui, tout à fait.
Je pense qu'il faudrait mieux qu'on oriente cette conversation sur ce qui s'est passé avec votre famille.
Ah ben ça, c'est le pire. Comme quoi dans la vie peut arriver. C'est une chose que j'aurais jamais pu imaginer. Voilà.
C'est-à-dire ? De quel genre de famille vous venez déjà ? Comment c'était chez vous quand vous étiez petite ?
Oh là là. Euh, C'était j'avais un papa qui avait qui était pied noir, enfin il est retour d'Algérie, qui avait 30 ans de plus que maman. Maman l'a connue là-bas puisqu'elle est partie de chez elle très tôt puisque elle a pas eu ça, elle vivait chez sa tante. Était malheureuse, donc elle n'a pas eu sa vraie maman, et sa maman étant morte lorsqu'elle avait 4 ans, et donc elle a rencontré papa en Algérie, après ils sont revenus après l'indépendance, donc moi je suis née à La Rochelle, et maman n'était pas heureuse, et je pense qu'elle elle est partie quand je devais avoir peut-être 5-6 ans, quoi, elle est partie du domicile conjugal. Et elle est revenue, enfin, j'ai même pas exactement quand, mais elle est revenue avec mon petit frère d'ailleurs, qu'elle a eu avec quelqu'un qu'elle avait rencontré par ailleurs, voilà.
Et pendant ce temps-là, vous étiez où, vous ?
Ben, chez moi, avec mon père.
Oui.
Mais j'ai plus de souvenirs du tout. Le seul souvenir que j'ai, c'est quand j'allais lui rendre visite à l'hôtel, à La Rochelle, et c'était un arrachement, enfin c'était horrible, puisque je devais repartir après... chez moi, enfin avec mon père, enfin je devais la quitter à nouveau, voilà. Et de cette période, j'essaie de me souvenir encore il n'y a pas très longtemps, mais j'ai pas de souvenir. Si ce n'est la personne qui travaillait à la maison, qui était en plus menaçante visiblement, mais je ne sais pas du tout pourquoi. J'ai pas de souvenir du tout. Après, maman est revenue vivre à la maison, mais avec mon petit frère, d'ailleurs que j'ai très bien accueilli, pourtant que j'aimais beaucoup. Mais elle est revenue vivre avec un statut un peu spécial. Ils n'étaient plus ensemble, voilà. Et en plus, il y avait les enfants du premier mariage de mon père qui se trouvaient là, qui étaient déjà très très grands.
Donc c'était déjà une enfance chaotique.
Complètement.
Oui.
Et complètement. Et puis à 10 ans, à 11 ans, on a déménagé sur Cherbourg. Mon père est parti de son côté dans un appartement. Et moi, je suis restée avec ma mère, mais mon père continue à venir nous garder la nuit, puisque maman était infirmière de nuit, est infirmière de nuit à la retraite à l'heure actuelle, mais à l'époque, elle était infirmière de nuit, elle travaillait donc. Et à Cherbourg, eh bien, je vivais avec mon frère et ma mère. J'ai vécu une préadolescence chaotique. Enfin, je dirais que tout a été chaotique très tôt, voilà.
Aujourd'hui, vous en êtes où dans ces relations-là ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
Avec maman et mon frère, mais j'aimerais bien savoir. C'est-à-dire que maman a vécu... Enfin, après, on a déménagé. Bref, on s'est retrouvés à un moment donné, toutes les deux sur Caen. Enfin, bref, dans une ville, pardon. Et mon frère est parti dans une autre ville, pas très loin, une centaine de kilomètres. Mon frère ne me parlait déjà plus depuis un an et demi. Ne voulait plus me parler, je ne savais pas vraiment pourquoi. Mon frère est quelqu'un d'assez taiseux, hein, contrairement à moi, très renfermé. Tout ce que je sais, c'est que maman a sûrement dû lui dire lorsqu'elle était en colère, parce que maman est peut-être quelqu'un d'excessivement adorable, mais parfois elle peut être extrêmement agressive et c'est chaud-froid. Et quand c'est le cas, moi, je plonge. Enfin, émotionnellement parlant, je plonge. Donc, ça peut donner lieu, des fois, à des messages comme ça où je suis en pleurs, où j'étais en pleurs, où je rappelais, etc. Et je pense que, d'après ce que j'ai pu... Enfin, maintenant, avec le recul, je pense que maman a dû dire des choses sur moi sans vouloir faire à mal, mais que mon frère a mal interprété. C'est vraiment très bizarre, cette histoire. Mon frère s'est opposé pendant 5 ans à ce que je vienne chez eux, même à Noël, même pour mes anniversaires. Donc, depuis 5 ans, j'y suis retournée une fois, mais ça ne s'est pas bien passé. La faute à pas de chance, enfin, pas de chance. Et c'est encore pire maintenant, d'ailleurs. Et puisque je ne peux plus y retourner tout court. Enfin, de toute façon, je ne pouvais déjà pas. Mais ce qui s'est passé, mais j'aimerais bien le savoir. La seule chose, le seul indice que je puisse avoir, c'est que... mon frère doit vraiment... Je ne suis pas dans sa tête, parce qu'en plus, il ne dit rien. Mais je pense qu'il n'est pas bien. De toute façon, il ne travaille pas. Il a des problèmes de santé. Il vit avec maman. Il ne sort pas du tout. Ils sont tous les deux là. Maman, en plus, je pense qu'il est assez impressionné par lui. Non qu'il soit méchant, hein, mais c'est lui qui dirige, enfin je vois bien, hein, c'est lui qui prend toute la place. Je dis ça sans aucune, parce que j'aime mon frère en plus, mais lui ne souhaitait plus me parler, a même dit un jour où je suis allée chez eux, c'était la première fois sans prévenir, que j'avais gâché 6 ans de la vie de maman, alors que franchement...
Il y a des choses à régler de ce côté-là.
Oui, mais alors non, avec le recul, sur le moment j'ai culpabilisé, mais du temps s'est passé et je peux vous dire que je n'estime pas avoir gâché la vie de maman, non.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'émotionnellement chez vous, j'entends une petite fille qui va pas bien là.
Ah mais oui, tout à fait.
Il y a quelque chose qui coince. Vous savez, je pense que quand je vous écoute, Catherine, il y a une accumulation de choses et souvent quand on est noyé comme ça, on a l'impression que aller mieux, ça va être impossible, c'est trop loin.
Ça c'est vrai.
Mais en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est un pas après l'autre. Chaque jour, commencez aujourd'hui, commencez demain à vous prendre en main. Je pense que vraiment vous avez besoin d'aide.
Ça c'est vrai.
Que vous trouviez une thérapeute ou un thérapeute dans un domaine, peut-être l'hypnose, peut-être autre chose qui vous convient, c'est à vous de le voir, à vous de choisir ça. Mais que vous devez simplement dites-vous que un pas après l'autre, vous allez surmonter chacune de ces épreuves et trouver une sortie à tout ça. Et que le sommeil n'est qu'une conséquence finalement. C'est pas le plus important, le sommeil, dans votre histoire.
Vous pensez...
Il y a des nœuds émotionnels qui sont assez gros. Mm. Et vous allez les défaire un par un. Il y a pas de raison. Simplement, il faut simplement vous dire c'est un pas après l'autre.
Pourtant, je fais tout ce que je peux, mais je...
Mais toute seule.
Oui, toute
c'est
seule.
Trop. C'est trop.
Oui.
Vous avez besoin d'aide, vraiment.
Je sais, mais je... L'énergie est très faible et en plus avec ces soucis d'ordre physiologique là, qu'en plus j'ai dû tirer sur la corde pour les mener, enfin pour m'en occuper.
Mais tout est lié. Tout est lié. Vous avez vraiment besoin d'aller parler, d'aller dénouer tout ça avec un professionnel, Catherine, vraiment. Mais la priorité, elle est là.
Oui, j'entends bien, mais l'argent ne serait déjà fait sinon. Enfin, je parle de psychothérapie ou autre ou d'autres thérapies, mais à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai plus suffisamment d'argent pour pouvoir mettre 60 € par exemple par semaine pour quelqu'un, hein, qui ne soit pas remboursé. Là est aussi le problème, hein.
Alors si je sais que les thérapies qui sont faites par des psychiatres peuvent être remboursées, ils vous font des ordonnances pour ça.
Oui, alors là. Là où je suis, vraiment, j'en ai fait 3. C'est une catastrophe. Désolée, hein, mais je... Donc, à force, vraiment, on n'est pas à Paris ici. Hein.
Oh, je ne suis pas sûre que ce soit lié à Paris. Je crois que ce n'est pas de chance. Vous n'êtes pas tombé sur les personnes qui vous convenaient. Mais il faudrait vraiment que vous arriviez à trouver quelqu'un quand même, Catherine. Vraiment. Hein. Quitte à ce que ce ne soit pas toutes les semaines, si vous n'avez pas les moyens, mais c'est important. Il y a des aides sociales aussi. Je sais qu'on me dit toujours qu'il y a beaucoup d'attentes, mais je sais qu'il y a des aides locales avec des psys qui peuvent être gratuits ou moins chers.
J'ai vraiment, c'est pas que je veuille dire non à tout, hein, loin s'en faut, mais j'ai il me semble avoir maintenant. Il me semble avoir un peu dans cette ville fait le tour de. C'est ça que j'ai besoin d'aide, certainement. Ça, j'en suis tout à fait consciente, mais comment et par où prendre... Puisqu'il y a un épuisement qui est tel en même temps que là, à m'entendre parler, on ressent pas forcément. Mais il y a des moments où j'ai même pas la force de parler, voilà.
Et vous n'auriez pas envie de vous faire hospitaliser quelques jours pour poser, justement ? Dans une maison de repos, dans un endroit où on pourrait prendre soin de vous un petit peu.
Peut-être par la suite, mais pour le moment, je suis bloquée avec cet examen qui va déjà me demander d'autres petits examens avant. Donc,
il faut que vous arriviez à trouver une sortie d'une manière ou d'une autre, hein, vraiment.
Bah, la sortie pour moi, c'est la sortie d'ici déjà. Et puis, je dirais du lien.
Lequel ?
Du lien qui soit amical, qui soit des relations, quand je dis amical,
C'est intéressant le mot lien que vous employez, parce qu'il y a ce lien à l'appartement, il y a ce lien à la famille et maman, Il y a ce lien amoureux qui s'est rompu. Il y a ce lien au sommeil qui s'est cassé aussi. Il y a beaucoup d'histoires de nœuds et de liens chez vous. Juste un petit mot, on a reçu plusieurs textos de gens qui souhaitent rentrer en contact avec vous, Catherine. Est-ce que vous voulez bien qu'on vous donne hors antenne leur numéro?
Ah bah oui, au contraire, oui.
Ce sont des nouveaux liens, justement.
Oui, bah oui, avec grand plaisir, oui.
Tout échange est toujours intéressant.
Oui.
Et peut-être des gens qui vous apporteront des solutions. Je ne sais pas dans quelle ville vous êtes, et puis ce n'est pas forcément utile de le dire, mais...
Non, mais ce n'est pas vraiment... C'est pas...
Non, ce que vous avez l'air de dire, vous avez fait le tour des thérapeutes dans votre ville, et quelque part...
Non, mais je suis... Ce n'est pas non plus un grand secret, hein. Je suis à Caen.
C'est une grande ville, quand même.
Il y en a des thérapeutes. C'est une grande ville. Elle est grande en superficie. Mais même d'ailleurs au niveau du centre-ville. Mais le centre-ville reste extrêmement... Et ce n'est pas une ville où il se passe beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de choses, c'est pas une ville qui a beaucoup d'âmes non plus. Enfin,
non, d'accord, mais je veux dire, pour trouver un bon thérapeute, vous pouvez prendre un train aussi, vous déplacer un petit peu. Aller jusqu'à Rouen, c'est pas très loin.
Bah, justement, c'est le lieu où vit ma mère et mon frère, voilà. Où vivent.
Ça vous empêche de trouver un thérapeute dans le même coin? Ça vous embête?
Non, enfin, s'il y en a...
Ah, il y en a forcément. Si c'est pas là, ça y est, mais vraiment, ça me semble essentiel que vous arriviez à pointer tous ces nœuds, tous ces liens qu'il faut rompre ou restaurer. Et surtout, restaurer le lien le plus important, c'est celui à vous-même.
Oui.
Il me semble. Ben Catherine, oui. On va devoir en rester là.
Je comprends. Je vous remercie beaucoup de m'avoir reçue. Et écoutez, je vais faire tout ce que je peux, tout ce que je... Voilà... Et puis,
je vous envoie plein d'énergie.
Ben, merci beaucoup.
Toutes celles que j'ai, je vous l'envoie.
Ben, merci beaucoup.
Je vous embrasse.
moi aussi, Sabine.
Au revoir, Catherine.
Au revoir.
Envoyez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 en tapant nuit au 739 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Jusqu'à 1h du matin, il vous reste donc une petite heure pour nous appeler au 3921 si vous souhaitez passer à l'antenne. Venez me parler de vous, de ce qui fait votre vie. Ici, tous les sujets qui vous concernent sont abordés avec sincérité et bienveillance. Venez parler de vos amours, de votre famille, de vos soucis, mais aussi pourquoi pas de vos joies. Venez partager vos doutes, vos questionnements, mais aussi ce qui vous rend fort dans la vie. Tout ce que vous vivez est intéressant car dans chaque histoire se trouve un peu la nôtre. Vous êtes coincé dans un schéma répétitif, vous ne comprenez pas une situation. Vos relations sont compliquées ou inexistantes, vous vous heurtez à des injustices, à des trahisons, à des humiliations. Venez m'en parler au 3921 et ensemble essayons d'avancer vers des chemins plus lumineux. À ce propos, si vous êtes sur un de ces chemins plus lumineux parce que des expériences de vie vous ont fait avancer, venez aussi nous raconter ça, il est toujours très enrichissant d'éclairer les autres quand on a réussi soi-même à retrouver un peu de lumière. Merci de venir aussi partager ça avec nous. 3921 pour le téléphone, 739-21 en commençant par le mot nuit, par les SMS. D'ailleurs, à ce propos, nous avons reçu beaucoup de SMS pour Catherine, des conseils, des contacts, des soutiens. Hassan et Amandine sont en train de lui transmettre à Catherine tous vos messages et je vous en remercie.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Bonsoir Nina.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur cette libre antenne.
Je vous remercie de me prendre à l'antenne.
Avec plaisir. Merci. Qu'est-ce qui vous amène, Nina? Ah, allô? Ah, allô? Ah, ça aurait été une relation courte. Nina, vous m'entendez? Ah, on a un petit problème technique. Alors écoutez, on fait une petite pause et on récupère Nina dans un instant. Nina, est-ce que vous êtes revenue?
Oui, je suis là, oui.
Ah,
oui.
Voilà, je suis contente de vous entendre.
Moi aussi.
Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous amène?
Voilà, Sabine, je vous ai appelé et écrit aujourd'hui pour essayer de comprendre un peu le comportement de ma sœur et de mon frère. Mm-hmm. Alors, je vous explique, moi j'ai 67 ans, Je suis la plus jeune de la famille. J'ai un frère de 70 ans et une sœur de 74 ans. Donc ça paraît très très âgé, mais pas du tout. Nous sommes encore des enfants dans nos cœurs.
Vous avez une voix très jeune, vous aussi, Nina.
Oui, je sais. Merci. Et nous sommes trois enfants. Et j'ai toujours eu des relations très très bonnes avec mon frère. Je dis toujours c'est mon jumeau, donc on a tout fait ensemble lors de notre jeunesse, adolescence et même lorsque nous étions mariés avec des enfants, donc des adultes. Et ma sœur n'était jamais avec nous. Nous n'avons aucun souvenir de notre sœur.
Alors redites-moi, votre sœur est l'aînée ?
Oui, ma sœur est l'aînée, elle a 74 ans aujourd'hui, oui, mon frère 70 ans, donc, et moi 67 ans. Et donc mon frère et moi, nous étions toujours une équipe, quoi. Nous faisions tout ensemble, nous avions les mêmes amis, les mêmes loisirs. Dès que je rappelle un souvenir à mon frère, il me reprend, il complète ce que je veux dire. Enfin, nous sommes très 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 amis.
Très complices, quoi.
Très complices, voilà. Mmh. Et nous entendons très très bien. Jusqu'à ce que ma sœur réapparaisse dans la famille, si j'ose m'exprimer ainsi. Et comme on ne la voyait absolument pas, on n'a aucun souvenir d'elle, on n'a aucune photo d'elle dans les photos de famille, ce qui est très bizarre quand même.
Oui, c'est curieux.
Parce que, en plus, elle a fait, lorsque je lui ai demandé pourquoi elle-même n'avait aucun souvenir de tout ça, elle a fait 10 ans de psychanalyse. Hein. Donc, je pense qu'elle a dû aborder quand même le sujet et elle me dit qu'elle ne sait pas. Bon. Et à partir du moment où ma sœur elle-même est devenue maman, elle s'est mariée, etc., elle a essayé de se rapprocher de nous, de mon frère et de moi-même. Et donc, ça a bien marché, enfin, on s'est bien entendu pendant les premières années. Et ensuite, je ne comprenais pas qu'elle essaye d'avoir le dessus sur moi. C'est-à-dire qu'elle, comme si elle n'avait pas eu sa place entre mon frère et moi, et qu'elle voulait la reprendre, mais en m'excluant. Voilà. Donc, vous m'entendez là ?
Oui, tout à fait. Oui,
oui, d'accord.
J'enregistre chacune de vos paroles.
C'est gentil. Merci. Et donc, au début, je ne comprenais pas qu'on pouvait exclure sa sœur, et j'ai mis du temps à comprendre. Et voilà. Et puis, les choses se sont un petit peu dégradées, même beaucoup, parce qu'il est arrivé un moment où, je ne faisais plus partie de leur cercle. Hein. Ils partaient en vacances ensemble, ils se recevaient chez eux, les uns les autres, ils se téléphonaient, et moi, je n'avais plus aucune nouvelle, ni de mon frère, ni de ma sœur.
Vous lui en parlez à votre frère à ce moment-là ? Vous lui avez dit ça ? Vous lui avez demandé pourquoi ?
Oui. Et il n'y avait aucune explication, il n'y avait aucun. En fait, il n'y a eu aucune fâcherie, aucune discussion. Et ça s'est fait comme ça. Je pense que ma sœur a voulu vraiment prendre sa place. Et sa place, elle ne pouvait pas la prendre si moi j'y étais. Quoi. Je pense que je suis arrivée à ces conclusions-là. Et voilà, donc ça a duré 15 ans quand même.
Ah oui.
15 ans où je n'ai plus vu mon frère ni ma sœur. Nous habitons à 300 mètres, ma sœur et moi.
Est-ce que les enfants, la génération d'après, se voyaient les cousins ?
Oui, ils se voyaient.
Eux, oui.
Eux, ils se voyaient, ils se voient toujours. Mmh. Et ils n'abordaient pas le sujet. Voilà, donc ils continuaient à se voir et à bien s'entendre. Donc la fâcherie, entre guillemets, a duré 15 ans. Et moi, je l'ai très, très mal vécu parce que vraiment, je me sentais abandonnée. Et puis, mon frère me manquait parce que vraiment, on a les mêmes idées, on pense pareil, on a les mêmes goûts, on a les mêmes souvenirs. Bon. Et je n'avais aucune raison, quoi. Je ne comprenais pas pourquoi ils agissaient ainsi. Et donc, j'ai rompu tout contact. Et puis, eux aussi, hein, ils n'ont pas essayé de me téléphoner ou quoi que ce soit, d'arranger les choses. Et donc ça a duré 15 ans et au bout de 15 ans, ma sœur est tombée malade, elle a eu un cancer. Mmh. Et mon frère a fait des infarctus, trois infarctus. Et j'ai réfléchi, j'ai décidé que je leur pardonnais et que j'allais reprendre du contact avec eux. Ce que j'ai fait, donc ça a duré 5 ans.
Pardonnez-moi, comment vous avez su que votre sœur était malade ?
Pardon, excusez-moi.
Comment est-ce que vous avez su que votre sœur était malade ?
Oui.
Comment est-ce que vous l'avez su ?
Comment je l'ai su ? Eh bien, parce que c'est des amis communs qui m'en ont parlé.
D'accord.
Voilà. Et donc, j'ai dit, je vais pardonner. On va essayer d'oublier tout ce qui s'est passé. Et on va repartir sur de nouvelles bases. Donc, effectivement, j'ai repris contact avec ma sœur, mon frère. Et puis nous sommes devenus très très proches, ma sœur et moi, très très proches. Elle a joué son rôle d'aînée vraiment un peu trop, même un peu trop lourdement. Et voilà. Et puis mon frère, bon, ça a été un peu plus difficile, c'est pas difficile, mais nos contacts n'étaient pas très très comment fréquents. Et voilà. Et ça a duré 5 ans de bonne entente. Et comment dire, et cet été, tout a recommencé. C'est-à-dire que mon frère m'a proposé de partir 3 jours en week-end, donc avec mon mari et sa femme. C'est ce que nous avons fait. Nous sommes très très bien entendus. On a passé des moments très agréables. Et puis en revenant, j'ai retrouvé ma sœur. On s'est beaucoup vus. C'était l'été, donc mes enfants étaient là, mes petits-enfants étaient là. Donc c'était des réunions de famille très agréables. Et nous avons beaucoup discuté, effectivement. Et puis incidemment, j'ai appris que ma sœur avait organisé un voyage à l'étranger avec mon frère et sa femme, et qu'elle ne m'en a pas parlé, pas du tout.
Ah,
elle ne m'a pas mis au courant. Et j'ai l'impression que je revis ce que j'ai vécu là pendant 15 ans, que j'étais mise à l'écart, et elle me dit qu'elle n'avait pas, lorsque je lui ai demandé évidemment des explications, elle m'a dit qu'elle n'avait pas eu l'occasion de m'en parler. Que les vacances, c'était pas, comment, ça correspondait pas à l'ambiance piscine, vacances, enfin conversation agréable autour de la piscine. Je ne sais pas quelle est la meilleure situation pour parler des vacances. Enfin, je trouve ça complètement ridicule.
Oui,
voilà.
Vrai.
Donc
ça,
apparemment, elle n'a pas voulu
parler. Ça paraît pas très honnête comme réponse. Ouais.
Pardon ?
Ça paraît pas très honnête comme réponse.
Non, c'est pas très honnête. Voilà, c'est ça. Moi, je ne lui reproche pas de partir en vacances avec notre frère et sa femme, mais c'est simplement le fait qu'il me le cache. Pourquoi me le cache-t-il ? Et je n'arrive pas à comprendre. Moi, je suis très contente qu'ils partent ensemble, hein, c'est pas le problème. Mais pourquoi tous les deux, hein, ne m'ont rien dit ?
Il y a plusieurs choses dans votre histoire qui m'interpellent un petit peu.
Oui.
Si on remonte à l'enfance, peut-être vous êtes-vous déjà posé la question, mais est-ce que vous êtes sûre que vous avez le même père avec votre sœur ?
Ah ! Ça, je ne sais pas.
Je trouve ça un petit peu curieux, le fait qu'il n'y ait pas de photos.
Oui.
Est-ce que ce n'est pas une enfant qui a été adoptée ou est-ce que ce n'est pas une enfant que votre maman a eue avec quelqu'un d'autre ? Vous me dites qu'elle a fait 10 ans de thérapie, 10 ans d'analyse, il y a peut-être des choses de ce côté-là qui ont été... Je ne sais pas, je pose des questions, mais je trouve ça surprenant qu'il n'y ait pas de photos. Est-ce que vous avez posé la question à votre maman à l'époque ?
Non, parce que je n'avais aucun doute sur le fait que ma... Que
mais
ma,
sur, le, mère... sur le manque de photos, par exemple.
Ah, si, il y a des photos de lorsqu'elle était toute petite, mais pas lorsque nous, les autres enfants, sont arrivés, quoi. On n'a aucun souvenir d'elle à la maison, ou à table, ou vous voyez, en vacances, ou voilà.
Bon, je sais pas, c'est un truc qui m'est venu à l'esprit quand vous... J'en sais rien, mais peut-être qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là.
Oui.
Peut-être qu'il y a un secret de famille quelque part.
C'est possible, oui.
Qui est en train de faire des nœuds plus ou moins inconscients chez les uns et chez les autres.
Oui.
Il y a peut-être ça, sinon la deuxième piste aussi, c'est qu'effectivement, vous avez formé un duo avec votre frère.
Oui.
Déjà, quand on est un premier dans une famille et qu'un deuxième enfant arrive, c'est pas toujours facile à vivre.
Oui.
Vous savez, quelquefois, quand des enfants entendent « j'ai avoir un autre enfant », ils se disent « zut, on veut plus de moi », ils en prennent un autre.
Oui.
Et là, vos parents, ils en ont pas pris un autre, ils en ont pris deux autres, et en plus, les deux, ils sont super copains.
Oui, c'est ça.
Ben oui.
Oui.
Et donc, peut-être que pour elle, pendant toutes ces années-là, ça a été une souffrance, ça.
Certainement.
Vous lui prenez de manière, c'est pas du tout méchant, bien sûr, mais vous arrivez sur Terre avec votre frère. Vous accaparez ses parents qui n'étaient là que pour elle. Mmh. Et en plus, vous devenez très très proches tous les deux. Et c'est elle qui a été exclue pendant longtemps.
Oui.
Et probablement qu'il y a eu pour elle beaucoup de souffrance, quelle que soit l'origine. Même si ça n'a rien à voir avec un secret de famille à la base, ça je ne sais pas pour l'instant.
Mmh.
Mais il peut y avoir eu de son côté à elle beaucoup de... C'est même pas de la jalousie, c'est de la souffrance d'enfant.
Oui, je pense que c'est de la souffrance, Sabine.
Si vos parents n'ont pas géré ça très très bien, parce que peut-être à l'époque on ne parlait pas autant, on n'était pas autant branchés psy qu'aujourd'hui, on n'expliquait pas autant les choses aux enfants.
C'est
elle
vrai.
A pu se sentir extrêmement, doublement exclue.
Tout à fait. Mais elle, c'était la fille qui réussissait très bien. Elle a une carrière formidable. Enfin, tout le monde la prenait en exemple. Hein. Donc, si vous voulez, de ce côté-là, elle était très admirée, très aimée, etc. Et nous, on était les deux petits là, qui venaient après, qui ne comptaient pas. Enfin, à nos yeux, mais nous, on était forts de notre amitié, quoi, de notre.
Chacun voit ça de son côté.
Oui. Oui.
Peut-être qu'elle n'a pas eu d'autre choix que d'être excellente, justement, pour être sûre de garder sa place aussi.
C'est possible. Je vais vous donner un petit détail, Sabine. Mmh. C'est lorsque nous avons repris des relations normales donc avec mon frère et ma sœur, nous sommes allés chez mon frère. Et mon frère, pour me faire plaisir, a ressorti des photos. Mais il y avait, je sais pas, une dizaine de photos. Et il n'y en avait aucune où ma sœur se trouvait. C'était des photos où lui était et moi j'étais sur la photo.
Des photos de quelle période ?
De notre enfance.
Oui, mais quelle période à peu près ? La petite enfance ?
Nous avions peut-être 7 ans. Mmh. Et mon frère, non, peut-être moi 6 ans et mon frère 9 ans. Peut-être un peu plus jeune, oui, un peu plus jeune. Et voyant ça, ma sœur, on faisait la fête, hein. Elle s'est levée et elle est partie dans sa chambre.
Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui ressemble vraiment à un secret de famille dans cette histoire.
Ah bon ?
Je trouve ça curieux, cette histoire d'absence de photos, d'absence de souvenirs.
Oui, oui, oui.
La réaction de votre sœur, le fait qu'elle passe 10 ans en analyse. Il y a quand même beaucoup de choses, hein, qui sembleraient dans l'ordre du non-dit.
Lorsque je lui ai demandé pourquoi son analyse avait duré 10 ans, elle m'a dit que c'était après la mort de notre mère. Elle en avait besoin. Elle avait besoin de faire une analyse.
C'est ce qui est possible aussi. En tout cas, il y a un gros problème de place dans cette histoire. Et ce qui est intéressant, c'est la place que prend votre frère, qui en fait passe de l'une à l'autre.
Oui, c'est ça.
Comme si c'était peut-être culpabilisé un peu de jamais s'occuper de sa grande sœur, de jamais partager avec elle.
Oui.
Et comme s'il avait récupéré ça d'un coup. Et comme s'il n'arrivait pas à avoir deux relations en même temps aussi.
Tout à fait, c'est ça. Pourtant, lorsque nous sommes partis en week-end, là, au mois d'août, passer 3-4 jours ensemble, c'était comme si on s'était jamais quitté, on avait la même complicité, enfin, on s'est très bien entendu.
C'est ça qui me surprend dans ces moments-là. Pourquoi est-ce que vous ne lui posez pas la question de manière cash ?
Bien écoutez, moi je lui ai dit, mais parce que je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais posé vraiment la question donc de notre fâcherie. Cet été-là, donc je lui ai dit. Tu sais, moi j'ai beaucoup souffert, voilà, simplement j'ai beaucoup souffert que nous ne voyons plus. Et lorsque je passais devant la maison de notre sœur, je voyais ta voiture, ça me faisait une peine immense et je pleurais.
Et qu'est-ce qu'il vous répond ?
Et lui, il me dit, je ne pense pas que ça soit passé comme ça.
D'accord, donc ça s'est passé comment d'après lui ?
Je ne sais pas, je n'ai pas posé de questions.
Oui, mais ça me paraît important quand même de creuser un petit peu tout ça.
Parce que c'est encore très douloureux. J'ai l'impression qu'il n'a pas compris que j'ai souffert énormément.
Mais si vous ne le dites pas vraiment,
ben c'est ça,
si vous coupez court, de quoi est-ce que vous avez peur en fait ?
Je ne sais pas. Je ne veux pas lui faire de reproches et pourtant il m'a fait beaucoup souffrir. Je ne veux pas lui faire de reproches. Et en plus, bon, si je vois qu'il n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que moi, ça risque de me décevoir.
Peut-être vous pourriez provoquer une conversation sans reproche. Simplement en lui disant comment vous vous sentez et ce que vous avez besoin de savoir. Il ne s'agit pas de l'agresser ou de lui faire des reproches, il s'agit de lui dire à quel point vous êtes mal.
Oui.
À quel point vous êtes dans l'incompréhension et à quel point il y a peut-être un gros point d'interrogation aussi sur cette sœur et sur ce qui a pu se passer. Est-ce qu'il y a encore des gens de votre famille qui sont vivants et dont vous êtes proche, des tantes, des
autres,
non ? Qui pourrait savoir des choses, peut-être
Je réfléchis. Non. Mais il y a eu un secret de famille dans notre famille, mais c'était pas ça.
Vous savez, il peut y en avoir plusieurs dans la même famille.
Oui.
Hein.
Oui.
Et concernant votre sœur, je me disais autre chose aussi. Souvent, quand il y a une maladie qui arrive, on se rapproche de l'essentiel. C'est ce qui semble s'être passé.
Oui.
Parce qu'on commence à se dire, finalement, c'est trop bête de rester fâché pour des bêtises.
Oui.
Et puis après, quand ça va mieux et que la vie reprend son cours, chasser le naturel, il revient au galop.
Oui, c'est ça.
C'est un peu ça qui s'est passé. Je pense qu'elle a dû se sentir un peu plus vulnérable en étant malade, qu'elle est peut-être revenue vers des valeurs plus humaines, plus proches de son cœur que de son cerveau, on va dire.
Oui.
Que de sa réflexion. Elle a écouté son cœur et puis maintenant que ça va mieux, elle refonctionne dans un schéma qui ressemble à un schéma d'un petit peu de je ne vais pas dire de vengeance, parce que le mot me paraît un petit peu fort, mais en tout cas de réparation.
Oui,
comme si
ça.
Elle avait une manière à elle de réparer quelque chose qui lui a manqué.
Oui.
Mais en même temps, ce qu'elle répare elle, ça vous casse vous, donc c'est compliqué.
Pourtant, je sais qu'elle m'aime beaucoup, qu'elle ferait n'importe quoi pour moi. Je le sais, ça. Elle me l'a prouvé. Mais elle ne comprend pas qu'en me cachant des choses aussi simples, quoi. Et c'est toujours en relation avec mon frère, avec notre frère, quoi.
Attendez, Nina, vous dites qu'elle ne comprend pas, mais là aussi, est-ce que vous lui avez exprimé les choses clairement ?
Ah oui, je lui ai dit. Je lui ai dit que je ne comprenais pas, que j'étais très contente qu'ils partent en vacances ensemble et que je ne comprenais pas pourquoi il omettait de me dire la vérité. Parce que bon, mais elle m'a dit, mais moi, je ne t'ai pas menti, je ne t'ai rien caché, c'est ce qu'elle m'a dit. Je ne t'ai rien caché. Je ne pensais pas que c'était important pour toi. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit? Et moi, je lui ai dit qu'on était peinés et tristes et que j'avais l'impression que ça recommençait encore cette période où vraiment j'ai été très, très affectée.
C'était quoi le secret de famille dont vous parliez tout à l'heure?
Oula. Bien, c'était ma tante qui a eu un enfant. Elle n'était pas mariée et voilà, non. Et on l'a caché. Mes grands-parents ont dû déménager de la ville où ils étaient, où ils habitaient. Et ça, voilà, ça a eu des conséquences graves sur la famille.
Je dis ça parce qu'il y a certains schémas répétitifs dans les familles, donc c'est pour ça qu'il faut les
Oui.
voir de ce côté-là quand même,
Ah oui.
il me semble. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de l'ordre du secret de famille avec votre sœur, et si c'est le cas, est-ce qu'elle le sait? Est-ce qu'elle a fini par travailler là-dessus ou pas du tout?
Sur un autre
Sinon, sur
secret.
elle, est-ce qu'il y a eu quelque chose,
Ah,
comme on disait tout à l'heure, vous savez, est-ce qu'elle est vraiment des mêmes parents que vous?
je le pense parce que mes parents étaient un couple très fusionnel, très lié, n'ont pas eu de soucis, une relation, je pense.
C'est curieux, il n'y a aucune photo de vous, par exemple, bébé dans ses bras à elle.
Ah non,
Ça,
non,
c'est
non,
étrange.
aucune. Ouais, c'est très
Ça se fait
étrange.
normalement dans une famille, quand un bébé arrive, on le prend en
Bien
photo avec
sûr.
son grand frère, sa grande
Oui,
sœur.
oui, oui. Non, oui. Avec moi, non.
Et
Non.
votre frère non plus, visiblement.
Je me souviens d'une photo, mais bon, ils étaient petits. Mais bon, c'est une photo, quoi. C'est pas. Aucun souvenir. Franchement, je n'ai aucun souvenir.
Et ça,
Autant. Oui?
oui, dites-moi.
Non, je dis autant j'étais fusionnelle avec mon frère. Et je revois des scènes avec mes parents, en vacances, à la plage, etc. Avec lui, mais avec elle, non.
Et ça,
Et quand.
vous n'avez pas envie de l'aborder directement avec elle en lui en parlant de cette histoire de photo?
Et si, je lui en ai parlé. On parle beaucoup, hein,
Alors, qu'est-ce qu'elle répond?
mais elle dit qu'elle n'a aucun souvenir. Aucun souvenir de son enfance.
Elle n'a pas d'album non plus à elle de son côté?
Si, elle en a, mais elle voit jamais de photos. Il y a quelque chose un peu bizarre. C'est
Ben oui.
mon gendre a voulu me faire un cadeau
Alors
et lui a
attendez,
demandé des photos.
votre gendre, c'est qui?
Mon gendre, c'est le mari de ma
Le
fille.
mari de votre fille, d'accord, ok.
Il a voulu me faire un cadeau, donc il a demandé à ma sœur des photos de la famille, de moi, etc. Elle lui a envoyé des photos, mais il n'y avait des photos que d'elle.
Oui, il y a un truc bizarre autour de ça quand même.
C'était un livre sur moi, oui.
Oui.
Elle n'a envoyé des photos que d'elle.
Alors, est-ce que ce serait une façon de reprendre cette place que vous lui avez pas laissée quand vous étiez petit?
Possible.
Mais c'est
Nous, on
curieux,
n'avait pas. Pardon.
vous me dites beaucoup, vous parlez ensemble, mais j'ai l'impression que les sujets importants ne sont pas vraiment abordés. Ou pas profondément abordés, que vous osez à peine en parler, et puis que finalement, bon, ben, on ne me répond pas, donc je parle d'autre chose.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Et donc, vous tournez en boucle avec les mêmes questionnements, les mêmes tristesses, et peut-être elle aussi en plus, parce que j'imagine que si on fait 10 ans de thérapie, c'est que ça va quand même pas très très bien. Certes, il y a la mort de maman, mais il y a peut-être d'autres choses aussi de son côté à
Oui,
elle.
certainement. Elle était en opposition avec ma mère.
Est-ce que ce serait complètement inenvisageable de partir seule avec elle un week-end, par exemple?
Ah non, non, non. Ça m'est déjà arrivé.
Est-ce que vous auriez pas envie de lui proposer ça, de faire un truc, j'allais dire un truc de fille, vous savez, de partir 2 jours en thalasso, faire un truc très très
Oui.
cocooning et d'en profiter pour créer un vrai dialogue, une vraie conversation?
Mais elle ne veut pas en parler.
Et de quoi, puisque vous n'avez pas posé vraiment les questions profondément?
Ben, sur les photos déjà, donc mais je dis mais c'est pas possible, tu as fait 10 ans de thérapie, tu n'as jamais abordé ce sujet-là. Elle me dit non, 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 non. Et donc elle a aucun souvenir. Et puis donc elle n'a pas du tout les mêmes souvenirs que moi j'ai de notre mère. Elle trouvait ma mère très comment pas valorisante pour elle, vous voyez. Et
Et
qu'elle
vous?
Moi, j'ai eu j'ai eu de très bonnes relations avec ma mère. Oui.
C'est comme si vous n'avez pas vécu la même enfance du tout, c'est curieux.
Tout à fait. Mais on a 7 ans de différence quand même.
Oui, c'est un petit peu, c'est pas non plus énorme. Ça justifie pas d'avoir des sensations aussi différentes que ça, en tout cas. D'avoir l'impression d'avoir grandi dans deux familles distinctes, pratiquement.
Tout à fait.
J'ai presque l'impression, en vous écoutant, que c'était votre cousine et pas votre sœur. Oui, c'est vrai, ça fait un peu ça.
Ouais. Mais c'est vrai, parce que nous, on la considérait comme la très grande, quoi, qui ne se mêlait pas à nos jeux, qui ne nous parlait pas, voilà. Et elle a choisi de nous découvrir, disons, lorsqu'elle-même donc a fondé une famille et voilà, s'est posée. Et voilà. Mais sinon, avant, non, pas du tout. C'était la grande sœur qui s'est toujours occupée de nous, hein, enfin, qui nous offrait souvent des cadeaux, qui était très gentille, mais elle n'était pas avec nous. Je sais pas.
Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, aujourd'hui, Nina ?
Moi, je voudrais qu'elle s'excuse. Je sais que c'est un peu beaucoup.
Elle s'excuse de quoi ?
De m'avoir trahi à nouveau, là. Je pense que c'est une trahison. De faire les choses comme ça en douce, ne pas m'en parler.
Mais là, ce qui s'est passé, c'est la conséquence de quelque chose. Mm-hmm. Et à mon avis, plutôt que d'aller directement attaquer sur la conséquence, il faudrait voir quelle est la cause, pourquoi. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait ce schéma répétitif tout le temps ?
Eh oui. Pas.
Quel est le non-dit ? Quel est le secret ? Quelle est la blessure originelle qui fait qu'il y a un truc qui tourne pas rond, quoi ? Parce que là, si vous abordez le sujet, enfin, si je peux me permettre, en lui disant « je voudrais que tu t'excuses », je crains que ça ne se passe pas très très bien.
Oui, je pense que non, ne sera pas d'accord non plus. Oui.
Vu ce que vous me racontez, j'ai l'impression que ce serait encore une occasion de fermer une porte, quoi.
Tout à fait.
Vous, ce que vous voulez vraiment, c'est que les portes se s'ouvrent, non, quand même ?
Oui, j'aimerais bien sûr, parce que là, je le vis très mal. Hein, donc, je pense qu'elle aussi, elle le vit très mal, mais...
Moi, je pense que ça serait bien de déposer un peu les armes et de partir toutes les deux, juste toutes les deux. Pas dans une optique de règlement de compte ou de « je veux que tu t'excuses, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça », mais qu'est-ce qui s'est passé à la base dans notre vie, dans notre famille à nous, pour qu'on en arrive là ?
Comment savoir ?
Mais déclencher la conversation. Si vous amenez la réponse dans la question, ça va être compliqué, évidemment, mais...
C'est-à-dire qu'elle elle a dû évacuer tous les souvenirs d'enfance qui lui font mal, je pense, hein.
Bah, vous me dites que vous n'en avez pas beaucoup non plus.
Moi ?
Si, vous en avez beaucoup ?
Des souvenirs d'enfance ?
Oui.
Ah oui. Enfin,
pas avec elle en tout cas.
Pas avec elle, non, ouais, non, mais des souvenirs d'enfance, beaucoup, énormément, oui. Une enfance heureuse, avec mon frère, avec mes parents. Avec...
Bah, si elle les a évacués, c'est qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas heureuses du tout. Hein.
Oui, mais comment savoir lesquelles ? Elle ne veut rien dire, hein. Elle ne dit rien.
Pour l'instant. Le contexte a peut-être pas été, a été propice à ça. Il me semble qu'en abordant une conversation avec elle dans un contexte plus tendre, pas dans une optique de d'accusation, de reproche, de choses comme ça, parce que je pense qu'elle doit être bien braquée déjà et qu'elle doit être aussi dans une souffrance qui n'est pas facile à gérer.
Oui.
Simplement essayer de nouer un nouveau lien, comme si vous partiez avec une amie, en lui disant voilà, qu'est-ce que t'en penses toi? Comment est-ce que tu analyses les choses ? Qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'on en arrive là ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux ? Pour que tout le monde aille mieux ?
Mais elle ne se remettra pas en cause, elle.
Ah bah si vous faites déjà le scénario, ça va être compliqué. Laissez-lui une chance qu'elle change aussi.
Oui, je sais pas. Lorsque je lui ai reproché de m'avoir pas informé de l'organisation de ce voyage. Je lui dis, toi qui parles beaucoup, qui raconte tout, qui donne tout en détail et tout. Et elle m'a dit, non, je ne raconte pas tout.
Nina, vous me le dites vous-même, lorsque je lui ai reproché de...
Oui,
essayer de ne pas commencer par... Ben oui, mais c'est ça le problème. C'est que c'est le meilleur moyen que l'autre se braque.
Oui.
Alors, soyez la grande pour une fois dans cette histoire. Soyez la grande, prenez-la par la main, ne soyez pas dans le reproche ou dans l'attente d'une justification, d'un pardon, d'un quelque chose comme ça, mais simplement dans une ouverture pour essayer de comprendre ce qui se passe et surtout comment est-ce qu'on peut faire pour aller mieux. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ça s'arrête tout ça ? Parce que la vie est courte. Hein.
C'est sûr.
C'est dommage d'en arriver à une maladie pour que les liens se renouent, pour que ça relâche après. Ça n'a pas de sens.
Oui. Mais moi, je vois que ça recommence comme il y a 15 ans, quoi. j'ai pas envie que ça recommence. Voilà.
Bah dites-lui ça aussi peut-être. Ouais. Allez évacuer la colère peut-être avec un thérapeute de votre côté pour pas qu'il y ait quelque chose de l'ordre du règlement de compte, vous savez.
Mm-hmm. Oui.
Peut-être vous apaisez-vous d'un côté et quand vous êtes suffisamment apaisé, renouez un lien plus calme, plus apaisé avec elle.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez à perdre ?
Non, je n'ai rien à faire. Oui. Non, mais je vois un thérapeute déjà. Je vois un thérapeute. Ouais.
Alors évacuez cette colère parce que je sens qu'elle est encore présente quand même. Hein.
Oui. Oui, c'est un sentiment de trahison. C'est peut-être très fort hein, comme mot, mais... Ouais. Parce qu'on est très proches, on se parle tous les jours, on raconte tout. Et puis là, elle a vraiment fait exprès de ne pas en parler. Quoi.
Vous le dites vous-même, vous ne vous racontez pas tout.
Hein. C'est elle qui l'a dit. Hein. Ouais. Mais je lui ai raconté quand même pas mal de choses de ma vie, de ce qui se passe dans mon couple, etc. Et elle, non, jamais. Ou très peu. Et puis, voilà, donc... Oui, elle cache certaines choses, effectivement. Elle cache.
Et je pense que le meilleur moyen d'en savoir plus, c'est pas de l'agresser ni de lui demander des comptes, mais d'essayer d'instaurer un climat de confidence, de confiance aussi entre vous.
Mais c'est ce qui existait hein, jusqu'à présent.
Oui, mais qui n'existe plus maintenant, c'est ça le problème.
Ah, moi, je suis... Vraiment, je suis très affectée vers ça. Très affectée.
J'entends bien ça. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez que vous pourriez essayer au moins de provoquer quelque chose comme ça, un week-end à deux ? Une journée, au moins, toutes les deux, juste ça.
Mm-hmm. Je sais pas.
Essayez. Mm-hmm. Essayez d'ouvrir la porte en ouvrant le cœur et pas la rancœur.
Mm-hmm.
Sans reproche, sans questionnement agressif, simplement pour essayer que ça aille mieux et de comprendre, ensemble.
Oui. Je sais pas, on verra.
Est-ce que vous aimez lire, Nina ?
Oui, bien sûr. Oui.
Je vous conseillerais bien, si vous ne connaissez pas encore, les livres de Jacques Salomé, vous connaissez ?
Oui, de nom, oui.
Les contes, vous ne l'avez pas lu encore ?
Non.
Il a sorti toute une série de contes, contes à guérir, contes à grandir, contes à s'aimer.
Ah bon ? Oui.
Ça vous ferait peut-être du bien de lire ça.
Oui.
Et même de partager ça en famille.
D'accord.
Jacques Salomé, tous les contes. Il y en a 7 ou 8 qui se suivent, qui sont vraiment qui sont très beaux et qui font du bien. Des petits contes thérapeutiques.
Oui.
D'accord, Nina ?
Oui.
Il va falloir que je vous laisse, on a pas mal d'appels ce soir.
D'accord, très bien, je vous remercie Sabine.
Je vous souhaite plein de bonheur pour la suite, je vous embrasse.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
La Libre Antenne sur Europe 1, Sabine Marin.
Et j'ai voulu garder du temps pour vous, Marie-Christine, bonsoir.
Bonsoir.
Je sais que vous traversez une période extrêmement douloureuse.
Oui.
Racontez-nous.
Eh bien, d'abord, j'avais appelé hier soir, mais trop tard, pour être entendue, pour raconter que mon mari était en fin de vie, que c'était suite à la maladie d'Alzheimer et que c'était très compliqué. Et puis là, aujourd'hui, il est décédé cet après-midi. Donc, je ne m'attendais pas à ce qu'on me rappelle. Voilà. Et
comment vous vous sentez là ?
Comment
vous vous sentez ?
Très mal.
Oui.
Ça fait des semaines que je me sens très mal parce que cette maladie, ça fait 10 ans qu'il avait cette maladie.
À quel âge il l'a déclaré ?
Il a 93 ans. Enfin, il avait 93 ans.
Donc il a déclaré...
Et moi, j'en ai 72.
Il a déclaré quand il avait 83.
C'est moi qui m'en suis rendu compte.
Comment ?
Parce que il me posait des questions, je lui répondais.
Mmh.
Et puis, quelques minutes après, il me redemandait la même chose. Donc c'est à ce moment-là qu'on est allé voir le médecin et puis les
neurologues,
les médecins spécialisés pour faire des analyses. Et c'est là qu'il a été diagnostiqué Alzheimer. Donc, je m'en suis bien occupée pendant 10 ans. Et puis, petit à petit, il a décliné. Et là, depuis le mois de juin, il était vraiment Il était vraiment parti, quoi.
Il vous reconnaissait plus du tout?
Ah, il m'a toujours reconnue. Oui.
Toujours, jusqu'au bout?
Jusqu'au bout, alors. Mmh. Il a été hospitalisé, bien entendu. Mmh. Et puis, j'allais le voir tous les jours. Il a eu un problème aussi du... la maladie de Wegener qui a ressurgi. Cette maladie, c'est une maladie qui atteint les...
Quels sont les symptômes de cette maladie?
Ça l'empêche de manger.
D'accord. Donc ça a encore compliqué la situation, j'imagine.
Ça a compliqué la situation.
Donc, il était nourri par sonde, c'est ça?
Non.
Non.
Alors les médecins lui ont donné de la cortisone. Parce que cette maladie de Wegener atteint les petits vaisseaux sanguins.
Oui.
Donc il était traité sous cortisone, c'est-à-dire qu'avec la cortisone, il avait un très grand appétit finalement. Et puis ce qui s'est passé il y a 2 semaines, c'est qu'il a fait une fausse route. C'est-à-dire que une fausse route, ça veut dire que
il a avalé de travers.
Il a avalé de travers. Mmh. Et qu'à ce moment-là, vu son âge et la maladie, c'était impossible de lui mettre une sonde, parce que c'est considéré comme de l'acharnement thérapeutique. Donc, il avait juste une petite... de quoi comment dire... pour qu'il ne soit pas complètement
déshydraté.
Oui. Il avait une perf pour justement ça. Et puis, bon, peu à peu, il ne s'exprimait plus. Il avait l'habitude, là, dernièrement, il y a un mois de ça, si je lui disais « Bonjour, c'est Marie-Christine, je suis à côté de toi. » Tu me reconnais? Alors, il faisait un petit signe de la tête, oui. Et puis là, depuis 15 jours, du fait qu'il n'était plus alimenté, il n'avait plus d'expression du visage.
Et vous aviez l'impression qu'il sentait que vous étiez là quand même?
Oui.
Oui.
Et puis, ce qui s'est passé donc aujourd'hui, j'avais pas trop envie d'aller le voir parce que je suis effrayément épuisée.
Merci.
Et puis je me suis dit bon, je vais y aller parce que le temps est compté. Et quand je suis arrivée, il respirait encore fortement par la bouche ouverte, grand, et je me suis approchée de lui, je lui ai dit voilà, je suis là. Et puis, 5 minutes après, il ne respirait plus. Il était mort. J'ai appelé tout de suite les infirmières. Ils m'ont dit oui, il est mort. Comme si il attendait que je sois là pour partir.
On a souvent des témoignages comme ça, d'ailleurs. Comme si la personne qui part pouvait presque attendre un moment précis. Que quelqu'un arrive. Souvent, on dit que les personnes âgées qui partent attendent que leur enfant soit venu leur dire au revoir aussi. Des situations comme ça.
Et là, j'ai vraiment eu... Je suis arrivée un quart d'heure avant.
Oui.
Et j'ai eu l'impression que... Il était content. Enfin, j'en sais rien, parce qu'il était dans un coma.
Comme s'il attendait de vous dire au revoir.
Oui.
Mmh.
Et que... Sachant que... Enfin, je ne sais pas, je suppose que j'étais là, qu'il avait la sensation que j'étais là, et puis il s'est dit, bon, ben, je peux partir maintenant. Alors, c'est effrayant, parce que même si on sait que la mort est proche. Quand ça arrive, c'est très douloureux.
Bien sûr, on est démunis. Est-ce que vous êtes entourée?
Oui, il y a les enfants, bien sûr. Mais je veux dire que, moi, ce que je veux dire, c'est que je préfère la solitude.
De manière générale ou là, en ce moment?
Depuis déjà un petit moment.
Pourquoi?
Parce que ça fait 10 ans que je m'occupe de lui, que il y a deux familles, si vous voulez. La première famille, bon, ils se sont pas beaucoup occupés de leur père. Donc moi, je me suis occupée de mon mari, mais c'est...
Qu'est-ce que vous appelez deux familles? Attendez, je ne comprends pas
bien.
Parce que
famille recomposée, il y a eu un premier mariage.
Ah, donc des enfants de sa première femme?
Le premier, oui.
Mm-hmm.
Et puis ensuite, moi, depuis très très longtemps. Et bon, ouais, les premiers enfants savaient que leur père était malade. Mais bon, tout le monde savait que moi je m'en occupais, donc...
Ils vous ont pas aidé?
Non.
Non.
Et puis, moi, ça ne me... Je faisais ça avec bon cœur. J'avais pas envie de leur reprocher quoi que ce soit. Moi, c'était mon mari, je m'en occupais. Et bon, si j'étais considérée un peu comme la bécassine, tant pis.
Qui est-ce qui vous a dit ça?
Comment?
Qui est-ce qui vous a dit ça?
Non, c'est moi qui le pense.
Par qui vous auriez été considérée comme ça? Par ses enfants?
Oui.
Son ex-femme?
Non, parce que... Non. Non, non, il n'y avait pas de contact.
Non plus par les enfants?
Oui.
Et les vôtres, alors, d'enfants?
Ben, les miens, les nôtres... il n'habite pas Nantes, donc puisque moi j'habite, on habite Nantes, ils ne sont pas à Nantes. Mon fils aîné est ambulancier. J'ai une fille, notre dernière fille qui est, elle est une campagnarde qui vit. Dans un trou perdu, comme on dit, ravitaillé par les corbeaux.
Mais est-ce qu'aujourd'hui ils sont arrivés quand même? Ils sont avec vous?
Oui, ils sont venus.
Bon.
Ils sont venus. Mais c'est bizarre, quoi. C'est bizarre. Et puis...
Puis vous allez entrer là dans le tourbillon de tout ce que vous devez organiser pour les obsèques, j'imagine?
Ben, oui, alors, donc, mon mari était sous curatelle. Et la curatrice, c'était sa fille aînée.
Ah, d'accord.
Donc c'est elle qui gère tout. Et c'est très bien.
Elle gère tout financièrement, mais j'imagine que vous avez votre mari.
Ah ben c'est l'argent de mon mari.
Oui.
Parce que c'était un chef d'entreprise qui a été formidable. Et ça me fait mal au cœur de le voir comme il est. Mais malheureusement.
Vous avez été mariée combien de temps, Marie-Christine?
Comment?
Vous avez été mariée combien de temps?
Attendez, j'ai pas entendu.
Vous avez été mariée combien de temps?
Oh là là, on s'est connus en 1963.
Ouais, c'est une longue et belle histoire.
Alors. J'avais 18 ans à l'époque.
Et vous l'avez connue comment?
Parce que... je gardais les enfants à Carnac, les enfants de la famille, de ces familles-là, puisque ma mère les connaissait. Donc c'est comme ça que j'ai connu mon mari.
Vous devez avoir plein de beaux souvenirs ensemble.
Il y a eu des mauvais souvenirs, mais il y en a de magnifiques.
Et c'est cela que vous allez garder maintenant?
Je voudrais bien. J'arrive pas à réaliser.
C'est normal.
Pourtant, je m'y attendais. Et là, cet après-midi, de le voir dans le lit tout raide. C'est horrible.
Je crois que malheureusement, on a beau s'y attendre, quand ça arrive, on est complètement démunis. Hein.
Oui. Mm. Et puis là, alors maintenant, ça va être la grande... Je suis déjà une solitaire, mais ce sera encore plus la solitude.
Vous allez devoir réorganiser votre vie différemment, sans lui.
Oui.
Vous allez entamer une période de deuil. Donc déjà, là, tout ce qui est matériel et d'organisation, vous me dites que c'est votre fille qui s'en occupe.
C'est ma belle-fille.
Sa fille, d'accord. Okay.
C'est sa fille, oui. Mmh. Oui, oui.
Quand est-ce qu'est prévu l'enterrement ?
Alors, ce qui est curieux, c'est que c'est prévu le 20... Pas lundi, pas demain lundi, mais l'autre lundi. Alors, je me dis que comment est-ce que c'est possible qu'on puisse garder un corps une semaine comme ça.
Oh,
je pense
sais.
Que les pompes funèbres vont l'emmener dans
une chambre froide.
Dans une chambre froide.
Oui. Vous savez pourquoi c'est aussi long ? On vous a expliqué.
Parce que il faut réunir. Il y a 7 enfants en tout.
D'accord.
4 et 3.
D'accord.
Et il faut que tout le monde puisse être présent, disponible.
D'accord. Donc il y a une raison qui vous a été donnée pour ça.
Oui, c'est ce qui m'a été dit. Mais à la limite, moi, je me dis que je vais pas aller à l'enterrement.
Pourquoi ça ?
Parce que ça sera trop dur. Je me suis tellement occupée de lui pendant des années que je ne vais pas pouvoir supporter. C'est une crémation, il n'y a pas de messe parce qu'il ne voulait pas.
Oh.
C'est une crémation et je pense que je serais incapable de supporter ce moment où on sait que la personne... il y a le feu qui prend...
Oui, rien que d'imaginer ça, c'est trop violent.
C'est très violent. Alors, je ne sais pas. Où je fais l'effort, je ne sais pas encore.
Ce que je crains, c'est qu'en restant seule, quelque part dans votre coin, vous pensiez à la même chose, ça sera aussi douloureux. Parce que vous vous direz, voilà, c'est en train de se passer maintenant, et vous serez seule et loin.
Ben oui, peut-être.
Alors que même si c'est une famille un petit peu décomposée ou recomposée, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais...
Recomposée,
il y a quand même des gens qui seront là pour vous soutenir si vous y allez.
Oui, je sais bien, mes enfants sont là, il n'y a plus d'animosité, si vous voulez.
D'accord, donc elle est bien recomposée, cette famille.
Oui, chacun de son côté, quand même. Mais la famille, la belle famille, la famille de la première famille, ils sont nombreux.
Mmh.
Et j'ai l'impression que je vais me sentir un peu écrasée.
Vous serez surtout avec vos enfants, vous savez.
Oui.
Quelquefois, cette étape-là, même si effectivement elle est difficile, elle est importante pour vraiment commencer son deuil aussi. Peut-être que là, vous êtes, et c'est bien normal, en état de choc, et vous n'avez pas de décision à prendre de toute façon là dans les heures qui viennent.
Non.
Laissez-vous le temps de vous remettre, de dormir un petit peu. Parce que j'entends que vous êtes épuisé.
Sommeil, ça fait longtemps qu'il n'est plus là.
Mais oui, quand on accompagne quelqu'un qui est très malade, on est épuisé soi-même.
Oui.
Bien sûr.
Je suis totalement épuisée, physiquement et moralement.
Vous avez un médecin qui vous suit, qui est près de vous ?
Non. Ben, si j'ai un psychiatre que je vois tous les mois.
Ça serait peut-être important de le voir là maintenant, plus rapidement.
Ben, le rendez-vous, il est pour le mois prochain.
C'est un petit peu lointain, non ? Vous avez peut-être besoin de médicaments là pour vous apaiser un petit peu, pour dormir. Cette semaine.
Il me donne des somnifères.
Dieu sait que je ne suis pas une fan de médicaments, mais dans un cas comme ça, c'est important de pouvoir dormir.
Alors, je me couche vers 23h et à 3h du matin, c'est terminé.
Ah oui. Et vous ne pourriez pas le revoir un peu plus rapidement pour aller lui parler un petit peu ?
Je vais reprendre contact avec lui. Parce que là, c'est tellement récent.
Ah oui, bien sûr.
Et garçon, il sait, il connaît tout de ma vie. Et je vais bien sûr le revoir.
Il pourrait être une oreille attentive pour vous, une épaule.
Oui. Mais j'ai pas trop envie de, avec mes enfants, j'ai pas trop envie de parler, de m'extérioriser. Je préfère le silence.
Je pense qu'ils peuvent comprendre et respecter ça. Est-ce qu'ils sont un peu comme vous de caractère ou ils ont plutôt envie de parler eux?
Oh, j'ai, ma fille est venue la semaine dernière. Elle est venue avec son chien. En pleine campagne, avec des chevaux, des animaux. C'est bien qu'elle ait fait les beaux-arts et toutes sortes elle a des diplômes et tout, puis elle a voulu, et ça fait longtemps qu'elle veut vivre dans la nature. Elle est venue, mais j'ai pas bien supporté, parce que elle est très très expansive, et puis moi j'avais besoin de silence.
Ça, je pense qu'ils peuvent le comprendre et le respecter. Marie-Christine, notre émission se termine. Je vais devoir vous quitter. Je vous serre dans mes bras. Prenez le temps. Ne prenez pas de décision tout de suite pour l'enterrement. Je crois que vous avez besoin de vous reposer d'abord un petit peu.
Oui.
Hein. Je vous embrasse de tout mon cœur.
Je vous remercie.
Je vous serre fort dans mes bras.
Je vous remercie de votre écoute.
Bon courage à vous, Marie-Christine.
Voilà. Merci beaucoup.
Au revoir.
Oui, au revoir.
Et oui, il est quasiment 1h du matin. Notre émission se termine en douceur. Merci à tous ceux qui sont venus participer à cette libre antenne ce soir. Merci à tous ceux qui ont participé par SMS. Demain soir à 22h30, vous retrouverez avec plaisir, je le sais, Sophie Peters pour poursuivre ces échanges. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à partir de 22h30. En attendant, je vous quitte avec cette citation que Lynn, à qui je souhaite un bon anniversaire au passage, a laissée sur ma page Facebook. « La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. » Et c'est signé Gandhi. Je vous laisse y réfléchir. Bonne nuit, à vendredi.